RRB, 16h-19h, le tout info.
Et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec Lionel Sabot et toute la rédaction d'RRB pour Info Soir.
Un nouvel accident mortel de la circulation. Le conducteur d'un camion ben a perdu la vie en début d'après-midi à Nouméa dans le quartier de Rivière-Salée. Sauvetage du Ruham, soutien aux opérateurs miniers et renforcement de l'attractivité du secteur hospitalier. Le gouvernement tenait sa séance hebdomadaire ce matin. La commission des lois du Sénat commence ce soir pour nous l'examen du projet de loi constitutionnelle concernant la Nouvelle-Calédonie. Explication à suivre. Et puis le FLNKS présente sa liste au Mont d'Or. Elle est intitulée « Le Mont d'Or, notre ville pour une nation souveraine » et regroupe les différentes parties du nouveau front. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Un accident aussi spectaculaire que dramatique cet après-midi à Nouméa. Un camion ben, je vous le disais en titre, s'est encastré dans la salle de boxe de Rivière-Salée, Léo Fichou.
Oui, spectaculaire par la violence du choc, dramatique par ses conséquences. Il était 14h30 lorsque le poids lourd, qui selon les premiers témoins, circulait à vive allure, s'est encastré dans la salle de boxe Vincent Cafoy. Dans sa course, le camion a détruit la passerelle qui permettait d'accéder au bâtiment. Le conducteur est malheureusement décédé sur le coup. Écoutez ce père de famille qui a assisté à l'accident.
On était sur le point de rentrer dans la salle de Muay Thai et on a vu le camion rouler à toute allure qui s'est encastré directement dans la salle. En fait, il roulait très très vite et soit il a eu un malaise, soit les freins ont lâché ou soit la pédale d'accélération elle est restée bloquée parce que on entendait bien que le moteur il était vraiment lancé. Il a tourné à gauche. Et quand il a tourné à gauche, on l'a vu s'encastrer directement dans la petite passerelle du judo. On s'est rendu sur place, on a sauté la barrière, on a essayé de voir si on pouvait avoir accès à la cabine pour éventuellement le sortir, mais impossible d'avoir accès à la cabine, elle était totalement broyée. Nos pensées vont surtout aux familles du monsieur.
À l'intérieur de la salle Vincent Cafoy, un cours de Muay Thai était donné par une dizaine d'encadrants à une vingtaine d'enfants. Ils étaient donc une trentaine à l'intérieur. Surpris par le bruit assourdissant, ils ont tous été choqués, mais aucun n'est blessé. En revanche, comme je le disais, le conducteur du camion est resté coincé dans la cabine. Il est décédé sur le coup. La passerelle étant totalement détruite, les personnes présentes à l'intérieur de la salle ont été évacuées par les pompiers à l'aide de la grande échelle. Une cellule psychologique a été mise en place dans la salle Omnisport Ernest Véret, juste à côté, pour accompagner les personnes présentes sur le lieu du drame, les jeunes en priorité, mais aussi les parents qui attendaient depuis de longues minutes de pouvoir retrouver leurs enfants. Peu avant 17h, une grue est arrivée sur place pour remonter le camion ben sur la route et bien évidemment désincarcérer le conducteur. Un périmètre de sécurité délimite toujours la zone autour de la salle Vincent Cafoy.
Et cet accident porte à 3 le nombre de morts sur les routes de Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'année. Séance importante ce mercredi pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ses membres ont adopté trois avant-projets de loi du pays visant tous à faire face à la crise économique et sanitaire qui touche actuellement le territoire. Tout d'abord, en ce qui concerne la filière nickel, un avant-projet de loi du pays qui vise à ouvrir temporairement les réserves géographiques métallurgiques à l'exportation. Michael Juneski.
Oui, un texte avant tout pour soutenir les métallurgistes calédoniens dans un cadre strict afin d'accompagner la filière nickel face à la crise. Il s'agit donc de permettre l'exportation de minerais bastonneurs extraits des sites réserves de Thiébaghi, Koniambo et du sud Latérique. Une mesure qui nécessite de modifier le code minier pour permettre cette dérogation temporaire. Ce texte offrira de nouvelles perspectives, notamment pour faire face à la concurrence mondiale, mais donc dans un cadre très strict. Les autorisations pourront être délivrées pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable par période de 5 ans. Par ailleurs, cette possibilité sera offerte uniquement aux métallurgistes dans le but de soutenir leur plan d'action pour sauver l'activité et l'emploi. Pour y prétendre, ils devront donc présenter à l'appui de leur demande les mesures qu'ils envisagent d'engager en parallèle afin de garantir la viabilité de leurs modèles économiques. Ils devront également préciser les modalités de compensation, notamment financière, de l'atteinte portée à la disponibilité des ressources se trouvant dans ces réserves géographiques. Enfin, les métallurgistes auront pour obligation de consulter en priorité les usines locales ou détenues par des intérêts calédoniens. Ainsi, à prix équivalent, les cessions entre opérateurs opérateurs locaux seront préférés à l'exportation et ce, afin que cette mesure puisse profiter avant tout localement. Les précisions de Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement.
Il y a un dossier nickel qui fait l'objet de beaucoup de concertations à la fois avec les provinces, le gouvernement, les services de l'État et les différents opérateurs. L'important, c'est de permettre au secteur de la métallurgie de reprendre son activité, donc d'avoir des ressources complémentaires et donc d'ouvrir avec certaines conditions les exportations aux réserves métallurgiques, notamment de Thiébaguy, de Cognambeau et de l'usine du Sud. C'est un texte qui est attendu depuis très longtemps, ce qui permettra d'exporter du minerai qui est à très basse teneur et donc non traitable en Nouvelle-Calédonie et qui sera fait selon des conditions d'un redressement économique des différents opérateurs et qui participera à favoriser des reprises d'activité, notamment dans le Sud et à Cagnes. C'est un texte temporaire pour le moment, enfin des autorisations sur 10 ans et pour des minerais vraiment à faible teneur non traitable localement, qui étaient au final des déchets qui étaient stockés parfois en bord de mer et qui avaient un risque pour l'environnement. Aujourd'hui, on va créer de la valeur et ça permettra de recréer des emplois et de recréer de la richesse pour les entreprises calédoniennes.
Autre avant-projet de loi du pays adopté aujourd'hui, un texte portant diverses mesures en matière de retraite qui vise à assurer la pérennité de la branche assurance vieillesse et veuvage et d'augmenter les ressources du RUAM et de la protection sociale. Des réformes sont nécessaires dans l'attente de mesures complémentaires. Les deux objectifs principaux de ces mesures sont de réaliser des économies sur les dépenses et d'en corriger certains déséquilibres structurels. Le texte propose donc les mesures suivantes. L'âge de départ à la retraite est maintenu à 62 ans, mais la durée de cotisation nécessaire pour partir avant cet âge sans abattement passe de 37 à 39 ans, avec une augmentation progressive de 6 mois par an pendant 4 ans. L'assiette de cotisation en retraite est déplafonnée et s'accompagne de la création d'une seconde tranche de cotisation applicable aux revenus supérieurs. L'introduction d'une durée minimale de cotisation de 15 ans pour partir à la retraite sans abattement avant 65 ans et l'élargissement de la possibilité de s'assurer volontairement à la branche assurance vieillesse et veuvage, actuellement réservée aux personnes ayant été salariées pendant au moins 5 ans.
Un texte important sur la réforme de retraite, puisqu'on nous avait alerté par la CAFAT que le régime de retraite du secteur privé avait un risque de cessation de paiement important au mois de mai-juin de cette année. Donc nous avons travaillé avec les partenaires sociaux et les groupes politiques déjà pour aller au niveau de l'État demander des enveloppes complémentaires que nous avons obtenues pour pérenniser le système de retraite du secteur privé pour les années 2026 et 2027. Mais on a besoin d'avoir une réforme du système de retraite en Nouvelle-Calédonie et c'est pour ça que ce matin, avec un accord des partenaires sociaux, on a présenté un certain nombre de mesures. Une augmentation jusqu'en 2029 de la durée de cotisation de 2 ans, de passer de 37 ans à 39 ans en 2029. Une augmentation aussi de la durée pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'avoir une durée de 15 ans minimale, mais également un travail qui permet d'avoir des nouvelles recettes, comme permettre aux travailleurs indépendants de rentrer dans le système de retraite du secteur privé. Avant, il leur fallait 5 ans de salariat. Aujourd'hui, on leur permet de rentrer directement dans le système.
Enfin, une mesure pour faire face au manque de soignants et répondre aux attentes d'un certain nombre de professionnels de santé. Une réforme du statut des praticiens hospitaliers. Ces textes ont pour objectif de rénover en profondeur leur statut afin de moderniser la gestion de leur carrière et de renforcer l'attractivité du secteur hospitalier en Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord, les directeurs des hôpitaux assureront directement la gestion de carrière de leurs praticiens. Par ailleurs, contrairement à aujourd'hui, l'exercice d'une activité libérale en parallèle sera autorisé dans un cadre bien défini.
Sur la santé et sur le statut des personnels hospitaliers, qui permettra aux hôpitaux de recruter directement leur personnel, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisque les personnels hospitaliers étaient nommés par le gouvernement, ce qui prenait un temps infini et donnait pas une grande flexibilité de gestion des carrières de ces agents. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était la possibilité pour les personnels hospitaliers, c'était une demande qui était forte, de pouvoir exercer une partie d'activité libérale au sein des hôpitaux. Donc ça a été accordé, donc présenté dans ce texte.
Voilà pour les précisions de Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement. Par ailleurs, le système de santé calédonien dans son ensemble fait l'objet d'une réflexion en profondeur avec des réunions qui ont débuté dès cet après-midi impliquant les professionnels de santé pour l'organisation prochaine d'une concertation globale à l'image du Ségur de la santé qui a été réalisé en métropole avec l'ensemble des acteurs du secteur.
Il a été reporté à plusieurs reprises le temps de s'accorder avec l'État sur le soutien qu'il apporte à la Calédonie et ses modalités, mais c'est finalement demain que les élus du Congrès se retrouvent pour l'examen du budget propre de la Nouvelle-Calédonie et ses budgets annexes. La séance doit débuter à 8h30, elle doit durer toute la journée et se prolongera si nécessaire vendredi matin pour permettre aux élus d'aller jusqu'au bout de leurs travaux. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, Bertrand Courte est le nouveau président du MEDEF, un poste qu'il occupe depuis que Mim Sidélé a annoncé la semaine dernière qu'elle quittait son poste pour s'engager dans la campagne pour les municipales sur la liste de Sonia Lagarde. Comment envisage-t-il son mandat? Quelles sont les priorités qu'il entend sont données au MEDEF. Bertrand Coutt sera demain matin notre invité à 7h30. Et puis, les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, demain midi, seront consacrés à la mission interministérielle sur la Nouvelle-Calédonie. Claire Durieux, sa directrice, sera l'invitée de Jean-François Bodin. Quelles sont les principales mesures déjà actées par cette mission? Le plan de relance annoncé par le Premier ministre constitue-t-il une nouvelle feuille de route? Quelles sont les urgences et les priorités à venir? Rendez-vous demain midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. C'est à 9h heure de Paris, 19h heure de Nouméa que la commission des lois du Sénat commencera l'examen du projet de loi constitutionnelle concernant la Nouvelle-Calédonie. Le texte sera examiné ensuite le 24 février en séance publique par les sénateurs avant d'être transmis à l'Assemblée nationale. Mais le calendrier parlementaire sera difficile à tenir, Elisabeth Noir.
Et beaucoup pensent déjà que la réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie est dans l'impasse faute d'une majorité à l'Assemblée nationale et en conséquence faute de la possibilité de trouver une majorité des 3/5 au Congrès de Versailles s'il était convoqué. Ces doutes sur le processus calédonien ont été renforcés par la publication, dans le journal Le Monde, d'une tribune signée de 7 parlementaires socialistes, parmi lesquels les députés Olivier Faure et Boris Vallaud, ou le sénateur Patrick Kanner. Ils estiment que le projet de réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie est lourd de menaces et de dangers, et ces fortes réserves des socialistes ont été répétées cette nuit pour nous, alors que la commission des lois du Sénat auditionnait la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. La sénatrice socialiste Corinne Narasiguin a ainsi soulevé les problèmes qui empêchent son groupe de voter le texte en l'état.
Nous mettre dans une position où nous devrions voter un projet de loi constitutionnel alors que justement le travail avec les parties calédoniennes sur le projet de loi organique n'a pas encore eu lieu et où l'accord, contrairement à l'accord de Nouméa, renvoie beaucoup d'éléments à la définition dans le projet de loi organique, c'est un problème, c'est une responsabilité lourde que vous demandez de prendre au Parlement français et donc c'est pour ces raisons que, à l'état actuel des choses, les socialistes ne voient pas comment nous pourrions voter le projet de loi constitutionnel en l'état.
Le sénateur Patrick Kanner, signataire de la tribune, a fait part de ses oppositions au texte en l'état actuel, mais il a laissé une petite porte ouverte en laissant entendre que la position de son groupe n'est pas encore arrêtée.
Nous nous disons, oui, première étape, et ce sera un socle, le vote au Sénat, avec une position que nous déciderons pour ce qui nous concerne en début de semaine prochaine, au regard de l'évolution du dossier. Et après, eh bien, on reprend le cycle normal démocratique pour engager une nouvelle négociation, en ne partant pas de rien, mais en ramenant tout le monde à la maison.
Et on sait que les loyalistes et le Rassemblement ont échangé ce matin en visioconférence avec le groupe socialiste du Sénat. Les loyers, c'est le Rassemblement qui, dans un communiqué, souligne que dans leur tribune, les socialistes n'ont pas indiqué qu'ils voteraient contre le texte, conservant ainsi la possibilité de s'abstenir. Pour les loyalistes et le Rassemblement, il n'existe aujourd'hui aucune alternative crédible pour l'avenir du pays en dehors de la mise en œuvre des accords de Bougival et de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. C'est pourquoi, écrivent-ils, il est de notre devoir d'aller convaincre un à un les parlementaires. Et ils indiquent qu'ils continueront dans les semaines à venir, aux côtés des autres signataires des accords, à mobiliser l'ensemble des responsables nationaux. Lors de son audition par la commission des lois du Sénat, la ministre des Outre-mer a défendu quant à elle la réforme constitutionnelle. Naïma Moutchou appelle les parlementaires à la responsabilité collective en affirmant qu'il n'existe aujourd'hui ni alternative ni contre-projet à Bougival.
Les partenaires calédoniens ont ouvert une nouvelle étape du dialogue qui a permis d'aboutir à un compromis équilibré. Il n'existe aujourd'hui ni alternative ni contre-projet partagé, chacun en a conscience. Ce processus ne pourra aboutir que par une mobilisation conjointe du gouvernement et du Parlement. Après des années d'impasse politique, après les fractures que les émeutes ont révélées et la crise économique et sociale qui en a résulté, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'une stabilité retrouvée. C'est précisément ce que permettent les accords. Les points qui faisaient débat ont été précisés et le protocole financier qui les accompagne offre enfin au territoire les moyens de se redresser. Il ne produira pleinement ses effets qu'avec de la visibilité pour les acteurs économiques.
Après avoir entendu la ministre, la commission des lois du Sénat va maintenant, vous le disiez, passer à l'examen du projet de la réforme constitutionnelle qui sera ensuite transmis et qui sera ensuite examiné le 24 février en séance publique. Le texte devrait être adopté par le Sénat, mais ce sera beaucoup plus compliqué à l'Assemblée nationale. Rien toutefois n'est encore joué, mais si la réforme constitutionnelle n'était pas adoptée, les élections provinciales devraient se tenir avant le 28 juin, avec un corps gelé, ce qui causerait d'autres problèmes.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et notre question du jour, est-il normal selon vous que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent Christian Théin malgré ses mises en examen pour des faits d'une particulière gravité? Si vous trouvez cela normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, à l'unanimité, les auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent que la sécurité aux abords des établissements scolaires est l'une de leurs préoccupations à l'occasion de la rentrée scolaire 2026. Il est 18h sur Radio Rythme Bleu. On marque une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous. Dans un instant, Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut Commissariat, est l'invité de ce journal.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Lionel Sabot.
Et un invité ce soir dans ce journal, nous recevons le secrétaire général du Haut Commissariat, Stanislas Alfonsi, qui va bientôt quitter le territoire où il était arrivé en janvier 2023. Bonsoir monsieur le secrétaire général.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Et pour vous interroger, Elisabeth Noir.
Monsieur le secrétaire général, vous êtes arrivé il y a un peu plus de 3 ans, en janvier 2023. Autant dire que votre séjour aura été dense. D'abord, pour les auditeurs, rappelez-nous quelles sont les fonctions d'un secrétaire général du Haut-Commissariat. On peut dire que c'est le numéro 2 de l'État en Nouvelle-Calédonie.
En effet, c'est bien ça. C'est celui qui agit aux côtés du Haut-Commissaire, dont il assume l'intérim ou la suppléance en cas de nécessité. Il s'efforce d'agir de manière discrète, un petit peu en retrait, un petit peu dans l'ombre, tout en gardant à la fois son influence et ses capacités d'action.
Arrivé en janvier 2023, autant dire que vous avez vécu des moments intenses en Nouvelle-Calédonie, et notamment les émeutes de mai 2024. Quand on est à votre place au secrétariat général, comment est-ce qu'on vit ce type d'événement et qu'est-ce que vous en retenez un peu plus de 2 ans après ?
Alors, 3 années passionnantes, effectivement. L'année 2024 sera très spéciale pour le territoire, bien entendu, et puis pour ceux qui ont vécu ces événements. J'en fais partie. Nous sommes relativement peu nombreux parmi ceux qui ont eu à piloter la gestion de cette crise du côté de l'État à être encore sur le territoire. Ça restera très marquant dans mon parcours, bien entendu. Une période intéressante, passionnante, sur un territoire avec ses spécificités, avec des particularismes qui ne laissent pas indifférents. Et je quitterai le territoire avec un petit pincement, évidemment. La Nouvelle-Calédonie ne laisse personne indifférent quand on y passe quelques semaines ou quelques années. On la garde avec soi pour toujours, probablement.
Alors, un séjour intense, on l'a dit. Il y a eu notamment 2 visites du président de la République et puis de très nombreuses visites ministérielles. Ce sont des choses dans ces cas-là qui vous occupent, qui sont intenses, dans lesquelles vous devez être aux aguets. Comment ça se passe ?
L'État a témoigné ces dernières années, en tout cas ces 3 dernières années, et je peux en témoigner à mon tour. L'État a témoigné beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie, au plus haut niveau. Effectivement, le président de la République est venu à 2 reprises, une fois en juillet 2023 et puis une autre fois en mai 2024, dans des conditions très différentes pour les 2 visites. De très nombreuses visites ministérielles, vous l'avez rappelé, de ministres de très haut niveau. Des ministres qui, à certains moments, passaient quasiment plus de temps à Paris, qu'à Paris. Je pense aux ministres des Outre-mer qui se sont succédés. Beaucoup d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie de la part de l'État, à un niveau politique, à un niveau technique, avec beaucoup de missions également, beaucoup de missions techniques, beaucoup d'expertise qui a été mise au service du territoire, beaucoup d'argent également. L'État intervient de façon très massive et il y a très peu de territoires de la République qui font l'objet d'autant d'attention et d'intérêt de la part de l'État. Donc tout cela, dans mes fonctions, ça a été quelque chose évidemment de passionnant et très intéressant. Et j'en garderai d'excellents souvenirs finalement, parce que participer à tout ça a été hors du commun, disons.
Dans vos fonctions, vous n'avez pas été associé directement aux phases de discussion, on pense notamment à celles de débat qui se sont déroulées sur le territoire ou aux missions interministérielles qui sont venues travailler ici ?
Les négociations relèvent principalement de l'échelon politique. Et ces négociations, en tout cas depuis les trois années que moi j'ai passé ici, étaient gérées de façon directe, et c'est encore le cas, à un niveau gouvernemental, au plus haut sommet de l'État, au niveau du président de la République lui-même, puisqu'il est intervenu. L'accord d'Élysée-Oudinot est bien signé à l'Élysée, bien traité à l'Élysée. Et donc ce sont davantage les cabinets ministériels, les conseillers et les ministres même qui ont traité le sujet sous l'angle de la négociation politique, davantage que les fonctionnaires sur place.
À titre personnel, ça vous intéresse? C'est un peu inédit ce phénomène institutionnel que vit la Nouvelle-Calédonie.
Alors, la Nouvelle-Calédonie est un fait inédit en soi. Les Calédoniens aiment qu'on leur dise, et c'est vrai qu'ils sont uniques au monde. Et c'est vrai en particulier sur le plan institutionnel. Ce que l'on fait ici, on ne le fait pas ailleurs. On vit ici des choses totalement atypiques. Sur le plan institutionnel, la construction du territoire, c'est une construction qui n'existe nulle part ailleurs. Même dans les territoires auxquels on a coutume de comparer la Nouvelle-Calédonie, je pense à la Polynésie française par exemple, mais l'évolution que l'on connaît ici, effectivement, est complètement hors du commun. C'est un intérêt supplémentaire du territoire, bien sûr.
Et est-ce que ça peut vous servir dans d'autres fonctions, ou est-ce que c'est vraiment tellement atypique qu'une fois qu'on a fait la Nouvelle-Calédonie, on doit passer vraiment à autre chose, qu'on ne pourra pas s'en inspirer?
Alors, c'est extrêmement utile, à titre personnel et à titre professionnel, parce qu'on apprend des tas de choses, on apprend beaucoup de choses en vivant ici et en travaillant ici. Ensuite, si votre question c'est de savoir si c'est duplicable, là, je vous dirais que probablement non, évidemment, parce que voilà, la Nouvelle-Calédonie est extraordinaire, et donc on ne peut pas refaire ailleurs ce que l'on a fait ici.
Alors, on connaît votre successeur, il a été nommé, il s'agit de Benoît Hubert. Vous-même, ça y est, on connaît votre... Vous avez été nommé également, est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez été muté, ce que vous allez faire maintenant?
Oui, tout à fait, je peux vous le dire, ce n'est pas du tout un secret, c'est totalement public, puisque mon arrêté d'affectation à la préfecture de police de Paris a été publié en début de semaine, et donc je décollerai du territoire physiquement dans la nuit de lundi à mardi, et je cesse mes fonctions ici le 22, c'est-à-dire dimanche soir à minuit.
Préfecture de police de Paris, ça veut dire que vous allez travailler avec Patrice Faure, l'ancien haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie?
Oui, effectivement, j'aurai cet honneur et ce plaisir. Patrice Faure est un professionnel remarquable, c'est un grand préfet, et pour moi c'est un grand plaisir, un grand honneur de le rejoindre.
Votre successeur Benoît Hubert, vous le connaissez un peu, on se connaît en général dans ces postes-là?
Benoît Hubert est quelqu'un de grande valeur, c'est une personnalité respectée, expérimentée. C'est quelqu'un qui me semble avoir un excellent profil, et je suis convaincu qu'il s'acquittera de cette mission avec beaucoup d'efficacité.
Pour conclure, monsieur le secrétaire général, un séjour dense, vous l'avez dit, atypique, avec des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Vous garderez quoi comme bon souvenir de la Nouvelle-Calédonie? Les mauvais, on le sait à peu près, mais les bons souvenirs que vous remporterez?
Je garderai surtout le souvenir d'un territoire qui, dans toutes ses composantes, est hors du commun, et d'une population qui s'est fait preuve d'une résilience qui ne se rencontre pas tous les jours. Voilà. Et lorsque je parle de cette population, je parle de toute la population calédonienne qui est confrontée à des défis importants, quelles que soient les communautés d'appartenance, quelles que soient les communautés de référence, disons. Mais tous les Calédoniens méritent le respect, et ils ont traversé des épreuves importantes. À l'arrière, s'il fallait retenir quelque chose, c'est leur valeur à eux que je retiendrai.
Monsieur le secrétaire général Seyssas Alfonsi, merci d'accepter votre invitation.
Merci à vous.
Et puis bonne route pour la suite.
Merci.
Il est 18h08, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. C'est la suite, bien évidemment, de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Un incident technique a affecté le réseau mobile Elia ce matin. Le réseau mobile Elia ce matin, mais il est désormais résolu. Les équipes de l'OPT mobilisées depuis les premières heures de la matinée ont procédé au rétablissement complet du service pour l'ensemble des abonnés. Pour rappel, entre 6h et 10h, près de 140 000 clients à travers le territoire ont rencontré des difficultés pour émettre des appels sur environ un abonné sur deux. L'OPT précise toutefois que la réception des appels fonctionner normalement durant toute la durée de la panne. Selon Thomas de Decker, le directeur général de l'OPT, l'origine de l'incident est liée à une intervention réalisée dans la nuit sur les cœurs de réseau mobile, système essentiel à l'acheminement et à l'organisation des appels. Le lancement officiel du chantier du câble sous-marin Tam Tam entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, une cérémonie de signature s'est tenue ce matin à Port Vila pour le début de la pose d'un câble sous-marin à fibre optique de 411 km qui reliera la capitale du Vanuatu à Lifou. L'atterrage du câble sera réalisé à Lifou au sein de la station OPT. Cet équipement a été conçu comme un lien de secours pour sécuriser les communications internationales du Vanuatu, mais il aura aussi un intérêt pour la Nouvelle-Calédonie. Il contribuera à diversifier les routes internationales, à renforcer la résilience et la continuité des communications, à sécuriser les flux numériques stratégiques et à consolider le positionnement de la Nouvelle-Calédonie comme nœud numérique du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie va faire son retour sur le stand Outre-mer du Salon de l'Agriculture. Il s'ouvre à Paris le week-end prochain et une vingtaine de producteurs calédoniens sera sur place. C'est un retour parce que l'an dernier, la situation économique n'avait pas permis que la Calédonie soit représentée dans ce rendez-vous extrêmement populaire. Ça ne pouvait pas se reproduire, nous a dit Lionel Brinon, le président de l'OSEF et de la Commission Agriculture et Pêche du Congrès. Il était notre invité tout à l'heure dans le journal à 11h30.
C'est surtout préjudiciable, je trouve, à la Nouvelle-Calédonie lorsque nous sommes le seul territoire français d'outre-mer à être absent de ce salon. C'est une vitrine des savoir-faire des agriculteurs et de l'artisanat. Et donc, c'était important que les agriculteurs, les éleveurs et les artisans puissent de nouveau faire partie du stand des Outre-mer.
Alors, qui part? Quels seront les produits qui seront mis en avant? Comment vous avez fait la sélection pour savoir quels sont les Calédoniens qui vont représenter la Calédonie à ce salon?
En Nouvelle-Calédonie, il y a une commission technique qui a regroupé les services techniques, les services de la Chambre d'agriculture et d'autres pour pouvoir sélectionner les produits. Donc, il va y avoir du miel, il va y avoir des hachards, il va y avoir de la viande de nos producteurs et des produits transformés, du poisson fumé, etc.
Les visiteurs qui se rendront sur le stand Outre-mer pourront donc découvrir les produits calédoniens. Une interview de Lionel Brinon qui est à retrouver bien évidemment en podcast sur notre site internet le www.rrb.nc.
RRB, il est 18h12.
Et une proposition de vœux du groupe UCFLNKS au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il présentait aujourd'hui son projet de dispositif tapage pour travail alternatif payé à la journée, inspiré d'un programme existant déjà en métropole. Ce plan d'insertion est destiné à des jeunes de 16 à 25 ans situés de grande précarité, d'exclusion sociale et souffrant également de problèmes d'addiction. Un dispositif qui doit leur permettre d'être rémunérés à la journée pour des emplois sans engagement sur la durée et ne nécessitant pas de qualification ou d'expérience professionnelle particulière. Les explications de Mera Neslin, vice-présidente du groupe UCFLNKS au Congrès.
Tapage, l'acronyme, c'est le travail alternatif payé à la journée. Donc nous avons fait en décembre dernier une table ronde où on a accueilli une référente du dispositif tapage qui existe au niveau national. Et donc par ce vœu, c'est de solliciter du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un diagnostic et de regarder comment on peut déployer le dispositif tapage en Nouvelle-Calédonie pour répondre aux besoins de la jeunesse. C'est pas de venir se substituer aux dispositifs qui sont déjà en place, mais de compléter l'offre pour les jeunes qui sont sous conduite addictive mais qui peinent aussi à trouver du travail et répondre aussi aux besoins d'accompagner notre jeunesse pour s'inscrire et s'insérer dans la vie active.
Un vœu qui a été déposé aujourd'hui sur le bureau du Congrès pour être étudié prochainement par le gouvernement et les élus du boulevard Vauban. Les services de l'État se sont déjà montrés favorables à la mise en place du dispositif tapage sur le territoire selon le groupe UCFL. FLNKS est nationaliste. Le FLNKS présente sa liste au Mont d'Or. Elle est intitulée « Le Mont d'Or, notre ville pour une nation souveraine » et regroupe les différentes parties du Nouveau Front ainsi que les représentants des chefferies. Jean-François Bonin.
C'est au cœur de la tribu de Saint-Louis à la maison commune de Saint-Sébastien que la liste a été présentée à la presse ce matin. Une déclaration sans interview au cours de laquelle Tania Waka, qui conduit cette liste, a présenté les grands axes de la campagne, l'urgence sociale et alimentaire, l'attractivité économique de la commune, la jeunesse, l'environnement ou encore la sécurité.
La tranquillité et la sécurité au quotidien restent des préoccupations majeures pour les habitants. Garantir un cadre sûr est indispensable pour que chacun puisse vivre sereinement et participer pleinement à la vie de la commune. Une politique efficace doit traiter à la fois la prévention, la présence sur le terrain et les causes sociales. On protège vraiment les habitants quand on agit sur les causes et pas seulement sur les symptômes. La sécurité, c'est également la lutte contre les violences faites aux femmes. L'équipe sortante de la mairie s'est désengagée du refuge, cette structure pourtant mise en place du temps d'Éric Guay avec des associations de femmes qui avaient pourtant montré son efficacité.
Emiliana Toutikian, élue municipale sortante, met de son côté l'accent sur l'environnement et la culture.
Le Mont d'Or, une ville fière de son océanité. Il est temps de redonner les vrais noms de l'endroit aux ayants droit de notre commune. Le travail sur la toponymie doit être sérieusement repris avec les autorités coutumières. Il convient de respecter le peuple qui a vécu depuis des milliers d'années au Mont d'Or et qui a nommé les lieux. Donc l'océanité est également un ensemble de valeurs, des échanges de biens, de production et de savoir-faire. Notre liste propose la mise en place d'un village océanien dans l'actuel centre culturel, un lieu d'échange et de partage permanent où les artistes et les artisans pourront se retrouver, travailler ensemble et montrer leur savoir-faire. Le drapeau identitaire du pays Kanaky devra flotter sur tous nos édifices publics de la commune. Un certain nombre de rues seront renommées afin de rendre hommage à des personnalités qui ont marqué notre commune et qui l'ont servi.
Et sur les 10 premiers noms de la liste déposée hier et qui ont été rendus publics ce matin, on signalera la présence du secrétaire général de l'UC, Dominique Fouché, ou encore de la présidente de l'USTKE, Mélanie Attapeau. La liste Le Mont d'Or, notre ville pour une nation souveraine, s'ajoute à celle présentée officiellement déjà par la maire sortante Elisabeth Rivière, tous ensemble pour Le Mont d'Or. Et la liste Il est temps, de Nina Julier, soutenue par les loyalistes.
Un bon de 3000 francs pour soutenir les familles démunies en période de rentrée scolaire. C'est une initiative du Fonds social de l'habitat. 250 bons ont été distribués ce matin à des résidents identifiés comme étant en situation de précarité. Les parents peuvent ensuite dépenser cette somme à l'As de Trèfle, Bureau Vallée ou chez Nopac, car le but est de soutenir les foyers dans l'achat de fournitures scolaires. C'est toujours une période difficile que celle de la rentrée, comme en témoignent ces deux parents venus au FSH à Païta ce matin.
En fait, on a reçu un SMS comme quoi on devait recevoir des dons quoi, pour les enfants. En gros, on a trois enfants, un au lycée puis deux au collège. Ça nous aider en fait pour nos besoins, quoi, surtout pour les enfants, surtout au collège.
C'est un coût, les frais liés à la rentrée.
Oui, beaucoup.
La plupart du temps, on prend les fournitures de l'année dernière et puis ça se fait comme ça. Du bouche à oreille, on demande s'ils n'ont pas du surplus. Et là, je ne sais pas, j'en aurai pour combien, donc ça va quand même aider.
Un dispositif déployé grâce à la mobilisation de référents au sein des résidences FSH, grâce à la cellule sociale du bailleur social. D'autres aides alimentaires, vestimentaires ou sanitaires sont aussi mises en place.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Notre rubrique souvenirs de rentrée pour accompagner la rentrée scolaire 2026. Ce soir, c'est Fabienne Cadoca de l'UTCFECGC qui nous révèle quel est l'objet qui, pour elle, symbolise la rentrée scolaire.
L'objet qui symbolise la rentrée scolaire, ben pour moi, c'était le cartable, je pense. Le cartable, enfin, quand j'étais élève en tout cas. Puis tout le matériel scolaire, etc., la trousse et tout ça, c'était ça un peu la rentrée scolaire. C'était à chaque rentrée, c'était un renouveau, quoi. Un nouveau cartable, des nouvelles affaires scolaires, voilà, c'était ça. C'est ce côté-là que j'aimais bien. C'est un nouveau départ, c'est de nouveaux enjeux, c'est de nouvelles perspectives, c'est de nouveaux camarades, c'est de nouveaux enseignants. C'est, en fin de compte, c'est une page qui se tourne et une autre qui s'ouvre, quoi. C'était ça à chaque fois la rentrée scolaire. J'ai pas forcément une marque spéciale de cartable, mais c'était juste de savoir que j'avais un nouveau cartable, des nouvelles affaires. C'était ce que j'aimais bien, quoi, dans la rentrée. Alors le message, ça serait surtout de vivre ensemble, quoi. Ça serait vraiment ça pour la rentrée scolaire, de vivre ensemble et de sanctuariser l'école, de faire en sorte qu'à l'école, on oublie tout ce qui se passe en dehors et on vit à l'école vraiment pour les apprentissages, pour la camaraderie, etc. Et puis voilà, le but, c'est vraiment d'acquérir de nouvelles compétences et c'est de réussir sa vie plus tard, quoi. Et l'école, c'est vraiment un tremplin, un levier qui est essentiel.
Fabienne Cadoca de l'UTFECGC au micro de Kalinda Boicourt, rubrique que vous retrouvez sur Radio Rythme Bleu tous les jours cette semaine.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Il est 18h20, l'heure de conclure ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Avec cette question, Pierre, ce soir, le ciel va-t-il encore nous tomber sur la tête?
Ça dépend. Où est-ce que vous habitez, Lionel?
En Calédonie. Allons-y.
Vigilance jaune, forte pluie, orage maintenue sur Belep, Ouvéa et le nord-est de Pouma, Poindimier. Des averses localement fortes et parfois orageuses persisteront en fin de journée et en cours de la soirée. Prudence sur les axes exposés et à la proximité des cours d'eau. Cette nuit, le ciel restera très nuageux à couvert sur l'ensemble du territoire. Sur la façade ouest, des averses encore présentes en soirée s'atténueront progressivement, même si le ciel restera chargé. Ailleurs, les nuages domineront largement avec des averses fréquentes, parfois fortes, voire orageuses en première partie de nuit sur Belep, le nord-est et Ouvéa. L'alizé de sud-est soufflera le plus souvent entre 15 et 20 nœuds. Il sera temporairement un peu plus faible, 10 à 15 nœuds sur le nord-est en début de nuit, puis sur le nord-ouest en fin de nuit. La nuit restera douce et humide avec des valeurs comprises entre 23 et 25 degrés. Demain matin, amélioration relative sur la façade ouest où le soleil fera de belles apparitions et les averses deviendront rares. Sur les autres régions, notamment l'Est et les Loyautés, les nuages resteront nombreux avec encore quelques averses isolées mais moins organisées qu'en soirée. L'alizé de sud-est s'installera durablement, soufflant entre 15 et 20 nœuds sur la plupart des secteurs. Côté mer, la mer sera basse vers 3h cette nuit. Elle remontera ensuite pour atteindre la pleine mer vers 9h33 demain matin. Les coefficients évolueront entre 32 cm et 1,69 m. Et côté ciel, la nouvelle lune sera quasiment invisible cette nuit avec une luminosité de 1%. Un ciel sombre, souvent masqué par les nuages, mais propice à de belles ambiances après le passage des averses.
Merci Pierre pour ce moment lyrique et cette annonce d'une nuit douce et humide. Il est 18h22, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.